que Radio Capéuni et le Congo, que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
L'Agence américaine pour le développement international, USAID, vient d'élaborer une nouvelle stratégie de développement de la RDC pour 5 ans. Cette nouvelle approche coordonnée vise à améliorer la gouvernance politique et économique tout en renforçant les capacités humaines et le bien-être de la population congolaise. Alors, quelles sont les grandes lignes de cette nouvelle stratégie et quelles sont les conditions de financement des projets d'intérêt communautaire? Voilà, on va aborder toutes ces questions avec notre invité. Vous voulez participer, n'hésitez pas à appeler au 081 890 63 94. Nous recevons à présent M. Christophe Toko, directeur adjoint de l'USAID. La première question est de savoir quelles sont les grandes lignes de la nouvelle stratégie d'intervention de l'USAID en République démocratique du Congo.
D'accord, merci beaucoup. Donc USAID travaille dans ce pays depuis l'indépendance. Nous avons souvent eu des stratégies différentes. Normalement, chaque 5 années, on élabore une stratégie qui doit se mettre en rapport avec que fait le pays, que veut faire le pays. Donc toujours une stratégie de USAID se met dans le cadre du document stratégique pour la réduction de la pauvreté du pays, qui est la stratégie globale du gouvernement congolais. Et donc cette nouvelle stratégie, elle a 3 axes. Il y a une focalisation géographique, une approche transversale, une focalisation sur la bonne gouvernance en général et une attention particulière dans l'est du pays pour promouvoir la paix et la sécurité.
Alors, vous avez dit, vous avez plusieurs approches, plusieurs stratégies, disons, lorsque vous travaillez en République démocratique du Congo. Alors, la question est de savoir pourquoi avoir changé, pourquoi vous voulez cette fois-ci changer d'approche ou changer des stratégies d'intervention dans le domaine du développement.
Bon, je pense que dans chaque pays, les choses évoluent et développent et en général, dans les périodes de 5 ans, les pays eux-mêmes, tels que le Congo, élaborent des stratégies qui soient quinquennales ou décennales, mais il faut toujours revoir ces stratégies pour être à l'heure actuelle. Donc, on s'est rendu compte que depuis la transition de 2006, le pays quand même évolue. On est parti d'une période où les agences de développement devaient faire beaucoup d'assistance, où maintenant on trouve un partenaire dans le gouvernement congolais qu'on travaille avec. Donc il faut essayer de trouver des stratégies qui vont soutenir ce gouvernement pour jouer son plein rôle au Congo.
D'accord. Vous dites que la nouvelle stratégie est focalisée sur 3 points. Vous avez parlé de la focalisation géographique, l'approche transversale et l'est du pays. Allons point par point. Parlons du premier point. Par rapport à la localisation géographique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
D'accord, donc peut-être je vais commencer aussi avec la vision de la stratégie, parce que c'est vraiment l'idée globale. Donc la vision, c'est une vision partagée par la RDC et l'Agence américaine pour le développement, que pour les 20 années prochaines, que le Congo sera un pays où les Congolais prennent en main leur futur pour gérer et soutenir la croissance avec leurs propres ressources humaines, naturelles et financières. Donc ça, c'est la vision sur 20 ans. On sait que les changements sociétals, ça prend longtemps. Après, on a un objectif quinquennal, donc sur les 5 ans à venir. C'est une visée à une transition à long terme soutenue pour un développement plus efficace et autonome en RDC. Donc, et là, maintenant, sous cet objectif quinquennal, nous avons 3 objectifs stratégiques. Donc, le premier, c'est les institutions sélectionnées au niveau national exécutent plus efficacement leur mandat. Le deuxième, c'est une meilleure qualité de vie pour les Congolais grâce aux approches de développement coordonnées dans les régions sélectionnées. Et la troisième, c'est un objectif de transition qui est le fondement pour une paix durable renforcée à l'est de la RDC. Donc, pour répondre à la question de la focalisation géographique, donc l'objectif numéro un vise des institutions nationales, que ce soit le ministère d'Éducation, le ministère de la Santé, le secteur de la justice, le Parlement, les organisations de la société civile.
Et qu'est-ce que vous allez faire avec ces organisations? Comment est-ce que vous allez collaborer?
Donc, normalement, la manière dont fonctionne USAID, c'est qu'on fait une stratégie. Après, on signe des accords avec le ministère des Affaires étrangères qui donne en global quel est le but de nos actions dans ce pays pour qu'on soit en même longueur d'onde avec le gouvernement. Et après, on procède à des appels d'offres pour des organisations pour mener des projets qui vont mettre en œuvre la stratégie. Donc, par exemple, dans le secteur de l'éducation, on est en train de faire un nouveau projet en partenariat avec DFID, l'agence britannique de développement, et le ministère de l'éducation, où nous allons travailler ensemble sur un projet de 180 millions de dollars sur 5 ans, qui va permettre à 450 000 enfants d'aller à l'école et permettra à 1 500 000 enfants d'étudier dans les zones de conflit du pays. Donc, il y a des...
Quand est-ce que ces projets vont démarrer?
Ils démarrent cette année. On espère de les démarrer avant le début de l'année scolaire prochaine.
Avant l'année prochaine, oui. Donc, vous allez travailler avec les institutions nationales, renforcer les institutions nationales. Là, vous pouvez parler, par exemple, d'un projet dans le domaine de l'éducation et dans d'autres domaines, secteurs. Qu'est-ce qui est prévu, par exemple?
Un de nos plus grand secteur d'intervention dans ce pays, c'est la santé. Nous avons plusieurs initiatives présidentielles qui sont mises en œuvre ici. Donc, on a l'initiative contre le paludisme, le President's Malaria Initiative. Nous avons l'initiative contre le sida, donc le PEPFAR. Et nous avons une initiative pour mettre fin à la mortalité maternelle et infantile. Dans le secteur de santé, nous travaillons étroitement avec le ministère pour, par exemple, vous donner un exemple des genres d'intervention. On fait ce qu'on appelle le financement basé sur les résultats, où au niveau du centre de santé, on donne des incentives pour que le centre de santé met en œuvre des services de soins de santé de meilleure qualité. Et quand ils ont atteint certains benchmarks au début, ils ont un financement basé sur ces résultats.
Et quel sera l'appui ou la nature de la collaboration avec les institutions nationales? Vous allez apporter un appui technique ou un appui financier également?
Donc, en général, la manière dont fonctionne USAID, c'est un appui technique. Donc, on travaille, par exemple, avec le bureau du Premier ministre ou avec ministère de la Santé. On peut leur proposer de mettre en œuvre des consultants pour les aider dans certains domaines où ils ont des lacunes ou pour travailler avec eux sur une politique nationale. Donc au niveau national, c'est surtout au niveau de renforcement des capacités eux-mêmes des institutions et aussi de voir quelles sont les politiques au niveau national qu'on peut aider à mettre en œuvre qui vont mener des actions sur le terrain plus efficaces.
Mais maintenant, avec les organisations de la société civile, comment cela va se passer?
Donc, par exemple, on travaille avec beaucoup d'organisations de la société civile, que ce soit au niveau des écoles, les COPA, les associations des parents d'élèves, que ce soit au niveau de la santé avec les CODESA, et même dans le secteur de la gouvernance, on travaille étroitement avec les officiels religieux. Donc, on travaille avec beaucoup d'organisations de société civile à travers tous nos projets.
Voilà, donc le premier volet, c'est le renforcement des capacités des institutions nationales. Et le deuxième volet, vous avez parlé du bien-être de la population.
Oui, donc c'est là où on se dit que vraiment un gouvernement qui a un pacte avec sa population doit pouvoir donner des services de base. à cette population, que ce soit l'éducation ou la santé, qui sont vraiment un fondement pour le développement du pays. Donc c'est là où on aura la plus grande partie de notre stratégie qui va intervenir, c'est dans cet objectif de développement 2, et c'est vraiment d'essayer au niveau provincial et local d'améliorer les services de santé, d'éducation, que ce soit aussi, bon, je dis santé et éducation parce que ce sont nos gros secteurs où on a le plus de financement, mais aussi dans le secteur de l'agriculture ou la croissance économique.
Et vous allez collaborer directement avec les ONG?
Donc là-bas, dans tout ce qu'on fait, on doit collaborer étroitement avec le gouvernement. Donc si c'est au niveau provincial, on va collaborer avec le gouvernement provincial, avec les zones de santé, avec les DPS, les départements provinciaux de santé, avec les organes du gouvernement à ce niveau là où on est, mais aussi avec la société civile.
Avec la société civile. Quelle est la nouvelle stratégie de développement de USAID? Ismaël Mumpoyi, nous avons un auditeur qui nous appelle de Lubumbashi, dans la province du Katanga, qui aimerait bien vous poser des questions. Vous voulez également participer et appeler au 081-890-6394.
Okapi Retro fait revivre l'étude des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Quelle est la nouvelle stratégie de développement de l'USAID et de l'USAID? On en parle aujourd'hui avec M. Christophe Toko, directeur adjoint de USAID. Ismaël Mumpoyi, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
La place dans le développement de l'État.
Ismaël, doucement, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kacham.
D'accord, alors, quelle est votre question? Allez-y maintenant.
Ok, ma question c'est de savoir... comme c'est un système de développement communautaire, alors que fera aussi cette organisation pourvu qu'aujourd'hui dans les domaines de l'éducation, tel qu'il a dit, que dans le gouvernement, la plupart de ceux qui ont décidé n'est qu'un échec lamentable. Alors quel sera aussi le mécanisme et le système qu'on pourrait aussi instaurer pourvu que ceux qui ont terminé les études pourraient aussi s'en sortir ou trouver aussi un boulot? Et comme proposition, mais pourquoi il devait aussi avoir aussi, par exemple, des systèmes de formation sociale, tel que dans la mécanique et aussi dans la conduction des véhicules pourvu que ceux qui n'ont pas aussi la place dans le gouvernement puissent aussi se retrouver. Quand il a aussi cité la question de la géographie, alors quel sera aussi le mécanisme efficace pour ceux de l'Est si aujourd'hui se déplacent de temps à autre qu'ils ne parviennent même pas à cultiver et avoir quelque chose à boire et à manger? Alors dans la sécurité, qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement? Et aussi pour l'agriculture, quel sera un bon mécanisme? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de l'engrais chimique pourvu que nous puissions cultiver et avoir plus à boire et à manger dans nos pays. Merci beaucoup.
Bien. Georges, vous êtes à Manono, bonjour, dans la province du Katanga.
Bonjour, monsieur Jody, Daniel Kachama, bonjour aussi à notre invité.
Quelle est votre question, Georges?
Je vais demander à notre invité... Pourquoi est-ce que l'USAID travaille soit avec des ONG internationales et des ONG nationales ou des ONG locales? Je prends par exemple ici chez nous, l'USAID travaille trop avec par exemple la première urgence ou les CSR. Alors j'aimerais savoir pourquoi il y a cette négligence des ONG locales. La deuxième question, j'ai très bien suivi l'invité quand il a dit que la priorité pour eux, pour ce moment, ils vont travailler trop sur la santé. Alors, j'aimerais savoir, pour que l'invité nous dise sur quoi est-ce qu'ils vont travailler, s'il y aura la construction des centres de santé ou bien ils vont aider la population avec des médicaments. Voilà tout, monsieur. Je dis Daniel Kacham.
Bien, merci Jean Dambosse. Vous êtes à Kolwezi, dans la province du Katanga. Bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour, merci. Bonjour à l'invité, ainsi qu'à tous les experts de la radio Katanga. Moi, je voudrais intervenir en ce sens parce que j'ai entendu l'invité toucher la partie Est de la République démocratique du Congo. En ce qui concerne l'enseignement, avec la nouvelle stratégie que l'invité vient de nous expliquer maintenant, qu'est-ce qui peut rassurer les enfants de l'Est de la RDC parce que chaque année, avec les guerres qu'il y a eu à l'Est, les enfants n'arrivent pas à bien équiper, soit à bien terminer le programme des études. Qu'est-ce qui peut leur rassurer qu'avec ces nouvelles stratégies plutôt, ils seront à bien étudier et à terminer leur programme scolaire? Voilà ma question.
Merci beaucoup, agent d'embauche depuis Colosi, Monsieur Christophe. Hein, vous avez plusieurs questions. Ismaël Adelumbashi vous pose la question de savoir si vous intéressez également au domaine de l'emploi, à la promotion de l'emploi des jeunes, parce que beaucoup terminent aujourd'hui. Vous avez parlé de l'éducation, mais après, par rapport à l'emploi, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Donc j'ai essayé de noter les questions pour pouvoir répondre. Donc il a demandé dans le secteur de l'éducation comment est-ce qu'on peut mieux travailler pour avoir des enseignants qui sont mieux formés ou même formés. Donc justement c'est dans ce domaine-là où on travaille étroitement avec le ministère pour établir des normes pour la formation professionnelle avant l'emploi et pendant l'emploi. Donc c'est établir des systèmes qui existent dans d'autres pays mais qui sont pas tout à fait fonctionnel ici, qui va aider à nous mener à avoir des enseignants bien formés qui peuvent enseigner bien au niveau national et de base. Donc on est vraiment étroitement liés et on a un appui avec le ministère de l'Éducation pour pouvoir arriver à cela. Dans la formation professionnelle, c'est sûr que c'est un besoin énorme vu la taille de la population en RDC. Nous avons quelques projets en vue où on cherche de faire des partenariats public-privé justement au Katanga avec le secteur minier pour pouvoir chercher sur comment est-ce qu'on peut justement élaborer et accroître les opportunités pour une formation professionnelle mais liée avec le secteur privé, avec un emploi qui va venir après, surtout dans ce secteur minier qui est très important dans cette province.
Et il a parlé il dit que la nouvelle stratégie va mettre un accent particulier à l'est du pays.
Oui.
Par rapport à la sécurité, à l'agriculture, qu'est-ce qui sera fait?
Donc en agriculture, on a un projet par exemple dans l'est avec des partenaires internationaux tels que le Howard Buffett Foundation et le Eastern Congo Initiative, là où on travaille sur le secteur du café. Donc on sait déjà que dans le pays voisin, au Rwanda, le café vraiment a beaucoup développé et une source de revenus importante pour les populations. Et il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne peut pas être pareil dans l'est de la RDC. Donc on travaille là-dessus déjà avec Catholic Relief Services. Et aussi, on est en train de chercher à mettre en œuvre une approche chaîne de valeur. Donc on essaye d'identifier quelques denrées alimentaires ou des produits agricultural products, donc le maïs, le soja, et de faire une chaîne de valeur. Donc c'est de voir là où il y a les bottlenecks dans quand on essaye de faire la production, soit dans la transformation, soit dans la vente, on essaye de voir
la chaîne des distributions. Et Georges Odemano nous dit pourquoi il a l'impression que USAID travaille seulement avec les organismes internationaux et vous ne collaborez pas directement avec les ONG au niveau local. Pourquoi?
Oui. C'est une très très bonne question. Donc on a une priorité au niveau de USAID mondial qui s'appelle Local Solutions. Donc on cherche vraiment à travailler de plus en plus étroitement avec des partenaires locaux. Donc c'est pas par manque de volonté, mais aussi il faut aussi comprendre que l'argent que USAID reçoit vient du contribuable américain et est alloué à USAID par le Congrès américain. Et il y a des procédures très strictes de redevabilité pour pouvoir comptabiliser tout cet argent. Donc on travaille souvent avec les ONG internationales qui eux aussi font des sous-dons à des ONG locales et donc ça c'est une manière dont même à travers l'ONG internationale, on peut aussi financer des ONG locales. Mais plus récemment, on a signé un don avec une ONG locale, le CEGP. Il y a eu un lancement officiel de ce projet avec notre ambassadeur et la directrice de USAID, où on va financer la CEGP pour faire la formation des moniteurs des élections. par exemple. Donc là où on trouve des organisations locales qui sont fortes, qui ont des procédures et des manuels et on peut faire un audit et que il y a certaines
donc on peut dire qu'il y a possibilité aux ONG au niveau local d'obtenir directement un financement des USAID.
On cherche à faire ça de plus en plus, mais ça dépend aussi de la capacité de l'ONG locale elle-même.
Voilà. Deux autres auditeurs en ligne. Paul nous appelle de Guémena et Dieu merci de Manono. On va revenir aux autres questions des Georges. Paul, vous êtes à Guémena dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question, Paul?
Ok. D'après ma part, je salue d'abord le représentant de USAID. Je voulais juste lui poser un peu de questions là, parce que je suis un animateur d'une structure ou d'une association de personnes vivant avec handicap. Mais nous ne voyons pas les activités de l'USAID par rapport aux personnes vivant avec handicap. Ils ont des accès par rapport aux enseignements. Mais par rapport à cet enseignement, qu'est-ce qu'ils ont planifié aux personnes vivant avec handicap? Toutes les associations sont les composantes de la société civile. Et il y a aussi des enseignements spécifiques par rapport aux personnes vivant avec handicap. Quel est l'apport de l'USAID ou le financement par rapport aux des associations de personnes vivant avec handicap? Parce que nous ne voyons pas les pactes de l'USAID venir secourir les personnes vivant avec handicap dans leur association. C'est pourquoi nous aussi, dans l'intérieur et dans les provinces, nous plaidons à ce que, qu'ils revoient un peu leurs activités ou leurs orientations par rapport à cela. C'est pourquoi je voulais un peu poser cette question.
Merci Paul. Paul. Dieu merci, vous êtes à Manono dans la province du Katanga. Bonjour et quelle est votre question?
Bon, moi aujourd'hui, moi j'ai trois questions à poser à l'invité. La première question, c'est par rapport aux médias. Bon, nous savons bien que l'USAID est en train d'intervenir dans le domaine de médias, mais c'est d'une manière restreinte. Pourquoi je dis d'une manière restreinte? C'est peut-être au niveau des formations avec quelques interventions aussi que je ne peux pas détailler pour le moment parce que le temps nous est imparti. Je voudrais demander pendant la période électorale ici que nous voulons bientôt là, que nous allons bientôt là entamer, est-ce que USAID n'a pas prévu des matières sur l'éducation électorale à travailler en rapport peut-être avec les médias qui peuvent réussir à sensibiliser rapidement et de grandes masses de population? Pourquoi? Parce que si USAID va nous dire, le représentant, je m'excuse, va nous dire qu'il est là pour les différentes communautés. Si cette structure va accompagner les électeurs à faire des bons choix ou bien des choix judiciaires, ce sera un bon travail dans la communauté.
D'accord, merci.
Et la première intervention. La deuxième intervention.
Alors, soyez bref, Dieu merci. Deuxième intervention, rapidement.
Oui. S'il vous plaît,
oui,
par rapport avec la santé, bon, on constate bien qu'il y a le paludisme qui est en train de faire de mort pas presque partout. Moi, je peux dire dans les Tanganyika, c'est trop pire si vous n'avez pas ou soit vous avez ces rapports. Beaucoup d'enfants meurent du paludisme, mais apparemment, ce n'est pas visible, ce n'est pas concret, les interventions de USAID. Pour terminer, c'est pour les nécessités. Dans la communauté, nous n'avons pas seulement les personnes vivant avec handicap, je peux ajouter aussi les orphelins. Il y a beaucoup, ici, nous avons au moins 3 écoles des orphelins, mais qui ne sont pas du tout assistées. Mais on se pose des questions. Bon, si nous avons une structure comme USAID qui peut intervenir dans ce domaine, ça peut permettre à ces...
Merci Dieu, merci. Merci beaucoup Dieu, merci. Depuis Manono dans la forêt du Katanga. Revenons à Georges de Manono qui a dit, vous allez mettre dans votre nouvelle approche, vous comptez mettre aussi un accent particulier sur la santé. Il dit, est-ce que vous allez construire des hôpitaux ou juste assez un apport en médicaments? Et par rapport à la sécurité à l'est du pays, les enfants n'étudient pas bien à cause de l'insécurité. Voilà. Est-ce que l'USAID a pensé à tout ça dans sa nouvelle stratégie?
Oui, bien sûr. Donc, sur les questions de construction, normalement, l'USAID mondialement pense que la construction d'un hôpital ou d'un centre de santé, vraiment, ça relève de l'État. locale. Donc, on finance pas la construction nouvelle, de nouvelles structures, mais si la structure existe, on peut financer la réhabilitation de ces structures. Donc, dans beaucoup de lieux dans ce pays, on finance la réhabilitation des structures de santé. La question sur les médicaments, à peu près un tiers de notre budget total est pour les health commodities, donc les médicaments que nous mettons dans la chaîne d'approvisionnement des centres de santé. Donc ça, c'était un peu pour répondre à sa question là sur la santé. Pour l'Est, l'éducation. Oui, voilà. Donc il avait demandé qu'est-ce qu'on peut faire à l'Est s'il y a la guerre, les enfants peuvent pas aller à l'école.
À l'école, tout ça. Ouais.
Justement, on a un projet qui est en cours depuis quelques années, qui est très, qui a beaucoup de succès. Ça s'appelle les Alternative Learning Programs. Donc en français, ça doit être les programmes d'apprentissage alternatif. Et c'est un cursus réduit sur le cursus primaire de 6 ans. On le réduit en 3 ans. Et les enfants de n'importe quel âge qui n'ont pas pu être scolarisés régulièrement peuvent y participer. Mmh. Et comme ça, ils ont une éducation primaire. Donc ça, c'était une réponse concrète à ce qu'on fait dans l'Est pour cette question des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école normalement.
Paul Deguemen a dit qu'il ne voit pas, il fait partie d'une association des personnes vivant avec handicap, il ne voit pas l'impact des actions de l'USAID par rapport à cette catégorie de personnes. Il veut savoir, est-ce que vous avez pensé à soutenir les associations des personnes vivant avec handicap?
Bon, oui, les handicaps, c'est une population cible très importante. Même au niveau de USAID Washington, on a des financements spécifiques pour les gens vivant avec handicap. Je pourrais aussi citer le fait que nous avons un immense programme contre le VIH-SIDA et aux États-Unis, une personne atteinte du VIH-SIDA, c'est aussi un genre d'handicap. Donc, nous avons beaucoup de projets là-dedans. Il faut dire aussi que, en général, on travaille pour améliorer la situation de vie des Congolais en général. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, parmi eux les handicapés, mais on essaye de nos mieux. Les besoins sont vraiment énormes. Vastes, oui.
Dieu merci, Demanono dit que vous travaillez également dans le secteur des médias. Est-ce que vous avez des matières par rapport à l'éducation électorale et il a parlé également de la santé, le paludisme. Il semble que là-bas, à Manono, il y a beaucoup de cas de paludisme et les interventions des USAID dans ces secteurs-là ne sont pas vraiment ressenties.
Donc justement, dans la question des médias, nous finançons depuis quelques années Internews, qui mène des actions avec les communautés, les radios communautaires à travers le pays. Donc ça, ça va continuer. Je pense que c'est important aussi, oui, dans cette question des élections, cette question sur l'éducation civique est très importante et nous allons lancer un projet dans quelques mois pour justement cette question d'éducation civique. Nous allons aussi, dans cette question électorale, soutenir la CENI pour qu'elle ait aussi des conseillers pour assister avec de l'assistance technique à la CENI. Donc on a on a beaucoup d'activités qui vont soutenir les élections au Congo.
Clément nous appelle de Kananga, dans la province du Kasaï occidental. Bonjour Clément. Oui, quelle est votre question Clément? Non, on vous entend pas très bien, Clément. Désolé, on vous entend pas très bien. Je reviens à vous, Monsieur Christophe Toko. Oui. Vous étiez en train de parler de la nouvelle stratégie des USAID en RDC, qui se focalise. Vous avez parlé des trois axes prioritaires. Oui. D'abord, vous allez renforcer, soutenir les institutions, la société civile. Vous allez travailler pour le bien-être de la population et vous allez vous focaliser cette fois-ci à l'Est. Pourquoi à l'Est?
Non, on se focalise justement. Donc peut-être pour élaborer. On va se focaliser dans les deux Kasaï et le Katanga pour une meilleure qualité de vie grâce aux approches de développement coordonné, donc c'est santé, éducation, agriculture et tel autre. Mmh. Et après, dans l'Est, pour la paix et la stabilité. Et si on demande pourquoi est-ce qu'on se focalise justement au Kasaï et au Katanga, C'est souvent, avant d'élaborer la stratégie, nous avons entrepris beaucoup d'enquêtes avec les populations congolaises, les institutions congolaises et les chercheurs, avec beaucoup de gens différents. Et on a aussi regardé les données et les statistiques sur le bien-être de la population. Et c'est vrai que dans beaucoup des statistiques de bien-être de la population, les Kasaï et le Katanga, ils sont moins que les autres provinces du pays. Donc ça, c'était une. Et bon, justement, avant, on se focalise sur tout ce pays qui a une étendue énorme, et donc on ne peut pas voir un impact, parce que de toute façon, les besoins sont toujours énormes. Donc on espère, en se focalisant sur des régions spécifiques, on pourra avoir un impact plus visible.
Mais par rapport à l'Est, vous avez travaillé par rapport à la paix, à la stabilisation.
Donc à l'Est, il faut aussi ajouter, on n'en a pas parlé encore, c'est sur le côté humanitaire. Donc USAID, elle a deux genres de branches. Elle a la branche développementaire, donc là, dont on parle de cette stratégie, c'est une stratégie sur le développement sur 5 ans. Mais USAID aussi est très impliquée dans les actions humanitaires. Donc l'humanitaire, c'est les besoins aujourd'hui pour les populations déplacées, menacées. C'est une aide urgente et on a à peu près au Congo, dans l'est du Congo, à peu près 100 millions de dollars par an qui sont alloués pour des actions humanitaires. Donc en conjugaison avec ces actions humanitaires, on essaye de faire des actions qui vont lier l'humanitaire qui est à court terme sur une année avec des actions qui sont plus à long terme. Donc pour rétablir les structures de l'État, pour trouver une cohésion sociale, pour essayer de conjuguer nos efforts dans plusieurs secteurs pour arriver à une paix durable.
Voilà, et vous avez parlé au début de cette émission que cette fois-ci, dans la nouvelle stratégie, vous allez adopter une approche transversale. Qu'est-ce que cela veut dire?
Donc, transversale, ça veut dire parce que dans le passé, dans beaucoup de pays, USAID peut avoir une stratégie qui se focalise. Donc, un objectif, c'est l'éducation. Un autre objectif, c'est la santé, par exemple. Mais là, vous voyez, dans nos objectifs de développement, c'est pas un objectif sur la santé ou l'éducation. C'est des objectifs transversaux dont il faut travailler ensemble dans ces différents secteurs pour se renforcer, pour arriver au but des institutions sélectionnées au niveau national qui exécutent plus efficacement leur mandat ou que ce soit les autres objectifs.
Donc cela veut dire que lorsque vos partenaires vont apporter des projets, il faut qu'il y ait une certaine continuité dans l'ensemble de ces projets pour avoir un impact beaucoup plus visible.
Voilà. Et il faut qu'il y ait une synergie entre ce qu'on fait dans la santé avec les zones de santé et les centres de santé et les départements de santé, ce qu'on fait dans l'éducation, et pour que ça soit combiné d'une manière que une action elle soutient l'autre et qu'elles ne sont pas faites l'une et l'autre séparément.
Donc cela veut dire que les organisations partenaires qui vont soumettre les projets doivent tenir compte de cette nouvelle approche.
Voilà, c'est ça. Donc
les projets ne seront pas financés.
Voilà, c'est ça. Parce que dans les appels d'offres, on explique très bien chaque fois quels sont les critères d'évaluation qui vont être utilisés pour évaluer chaque proposition qui est donnée. Donc on met ça dans les critères d'évaluation.
Voilà. Alors d'ici 2020, comment comptez-vous évaluer l'impact des actions de développement qui seront menées?
Oui, donc USAID a, au niveau mondial, a une politique sur l'évaluation, donc une evaluation policy. Pour tous les projets, il y a des évaluations de performance. Donc on fait soit à mi-cours ou à la fin du projet, une évaluation de performance. Et sur une stratégie telle que cette nouvelle stratégie, il y a aussi des évaluations d'impact. Donc les évaluations d'impact sont beaucoup plus lourdes parce qu'il faut décider qu'est-ce qu'on va faire avant que la stratégie commence et choisir des populations cibles qui n'ont pas bénéficié de l'assistance de USAID pour pouvoir les comparer avec ces populations qui vont bénéficier de l'assistance. Mais ça aussi, on va entreprendre.
Bien, merci Christophe Toko. Nous rappelons aussi un élément important, un auditeur l'a même soulevé, que USAID ne collabore pas directement avec les ONG au niveau local. Mais vous travaillez avec certaines institutions partenaires qui, à leur tour, vont collaborer avec certaines ONG au niveau local. Mais depuis quelques temps, vous avez parlé d'une structure locale, vous collaborez directement avec celle-ci, mais elle doit être bien organisée, c'est cela.
Voilà, donc nous cherchons à travailler de plus en plus avec d'autres organisations locales. Je vous avais mentionné que la CEGP est la...
Mais c'est quoi la CEGP?
C'est la Commission épiscopale. Donc c'est une commission des différents partenaires religieux, donc qui sont conjoints, et eux ils vont mener des actions sur pour l'observation des élections par les Congolais, pour les Congolais.
Bien, merci Christophe Toko. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de l'USAID. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup.